Il est 6h40. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Ce matin, Jacques, dans votre journal des idées, vous abordez l'élection de l'historien et archéologue François-Xavier Fauvel, désormais titulaire de la première chaire permanente consacrée à l'Afrique au Collège de France.
Oui, l'épilogue d'une longue rivalité entre spécialistes de ce continent, ajoute Joan Tilouine, dans Le Monde. Il retrace les épisodes de cette lutte d'influence entre deux écoles d'africanistes depuis 2015, quand le Collège de France, sous l'impulsion de Patrick Boucheron, commence à réfléchir à la création d'une chaire consacrée à l'Afrique. D'un côté, le camp marqué par les luttes pour la décolonisation, représenté notamment par Catherine Cochry-Vidrovitch, pour qui la guerre d'Algérie a été le déclic. De l'autre, ceux qui revendiquent une approche plus scientifique, entre guillemets, avec une volonté d'imposer la légitimité de l'histoire de l'Afrique comme une discipline rigoureuse, fin de citation, une approche plus décomplexée vis-à-vis du poids colonial aussi. François-Xavier Fauvel appartient à ce camp. Dans ses titres et travaux, l'opuscule adressé au professeur dans le cadre de sa candidature, il se dit animé par l'idée de réenchanter l'histoire médiévale du monde en restituant le rôle majeur du continent africain, et il affiche son aversion pour les fantasmes suscités par sa zone d'étude. À force d'en faire le berceau des origines, on a fini par folkloriser le passé de l'Afrique, écrit-il, et de cibler au passage ses détracteurs en rappelant que sa discipline a cessé d'être paternaliste pour devenir parfois tiers-mondiste. Elle a cru que décoloniser l'histoire de l'Afrique voulait dire laisser le champ libre aux veines nationalistes et afrocentristes, voire encourager l'entrepreneuriat mémoriel. La leçon inaugurale de la chaire d'histoire et archéologie des mondes africains est prévue à l'automne prochain. Aujourd'hui, le philosophe et historien camerounais Achille Mbembe, figure des études postcoloniales, estime que la création de cette chaire arrive un peu tard et qu'il est regrettable qu'elle ne revienne pas à un Africain. Ce serait inconcevable aux États-Unis, mais c'est justement l'attachement aux universités américaines où ils enseignent qui a amené les premiers intellectuels pressentis à décliner l'invitation. L'écrivain congolais Alain Mabankou, le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Ndiaye et son compatriote historien Ibrahima Tioub, qui a préféré servir son pays en tant que recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans les pages idées de Libération, Sonia Faure brosse le portrait intellectuel de Souleymane Bachir Ndiaye, et qu'il parle d'universalisme, d'islam ou de panafricanisme. En 2011, il a publié un livre intitulé « Bergson postcolonial ». Bergson n'a jamais écrit un mot sur la colonisation, mais, poursuit Ndiaye, dans son discours devant l'Académie des sciences morales et politiques en décembre 1914, il explique l'agressivité allemande par son histoire. Le pays s'était unifié à partir de la Prusse de manière brutale et mécanique, et l'Allemagne projetait désormais cette violence sur les autres nations. À l'époque, le texte a tout de suite été traduit en arabe, diffusé dans un journal égyptien et fortement discuté par les intellectuels. Pour eux, ce que Bergson disait sur l'Allemagne, cette victoire des forces mécaniques sur le vivant, décrivait exactement ce qui se passait avec la colonisation. Le philosophe sénégalais, qui refuse l'étiquette de penseur décolonial, ni même postcolonial, illustre ainsi sa relation à la notion occidentale et hégémonique d'universel, qui reste un but à atteindre en la distinguant de l'universalisme, qui est une forme d'impérialisme. Bergson, à son corps défendant, s'est retrouvé anticolonial, traduction, reprise, acculturation, ébauche les contours de ce nouvel universel qui serait véritablement tel parce qu'inclusif et non dévolu aux particuliers, à la fragmentation des identités. C'est le sujet des échanges avec l'anthropologue Jean-Louis Hamsel, publié chez Albin Michel sous le titre « Enquête d'Afrique, universalisme et pensée des coloniales ». Il y est question notamment de la charte du Mandé, où figurent les principes fondateurs de l'Empire du Mali au XIIIe siècle et qu'on peut lire comme une première version des droits humains. Si le grain du temps est l'événement, pourquoi les sociétés africaines africaines du passé en seraient-elles exclues, elles qui ont été pareillement et singulièrement prises dans l'étoffe même du temps et du récit, demande François-Xavier Fauvel, démentant la formule malheureuse selon laquelle l'homme africain ne serait pas assez entré dans l'histoire. Le futur professeur au Collège de France publie un bel ouvrage collectif abondamment illustré de près de 700 pages chez Belin sous le titre « L'Afrique ancienne, de l'Akakus au Zimbabwe, 20 000 ans avant notre ère jusqu'au XVIIe siècle ». Un continent d'écriture a notamment permis la remontée dans le temps, au même titre que les vestiges archéologiques. La préhistoire récente du Sahara nous apprend par exemple qu'entre le XIIe et le IVe millénaire, le Sahara était un milieu de vie exceptionnellement favorable, avec des lacs et des cours d'eau, ce dont l'art rupestre porte encore témoignage.